analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Écoutées depuis les rangs des écoles de musique et conservatoires, les chansons sonnent comme des objets à part, comme si des études musicales bien menées ne pouvaient conduire à une vie de chanteuse ou de chanteur. Comme l'histoire de la musique voit défiler tout un tas de rencontres entre les chansons et le dit grand répertoire, toutes ne sont pas forcément des tentatives de réconciliation. Autrement dit, tout le monde n'a pas toujours pensé qu'il y avait eu un divorce entre la chanson réputée populaire et la musique estampillée savante, mais là où personne ne semble vouloir que les catégories restent aussi grossières, là où personne ne peut se réjouir de débats d'étiquettes, c'est encore dans l'idée que la chanson et la musique écrite se sont disjointes qu'elles continuent à se tourner l'une autour de l'autre comme deux entités de temps en temps amoureuses l'une de l'autre, c'est-à-dire l'amour pour preuve, deux entités séparées. Le musicologue Étienne Kiplen a fait paraître aux presses universitaires de Provence Chansons françaises et musique contemporaine, un ouvrage dans lequel il examine les allées et venues entre deux territoires musicaux qui, quand ils s'investissent l'un l'autre, semblent respecter les frontières assez soigneusement pour tirer profit des droits de douane. Étienne Kiplen est l'invité unique de ce numéro de Métaclassique.
Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère. Elle nous jouait la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Or, malgré son jeune âge, elle avait l'obstination. Et pendant 3 heures de suite, au milieu des éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. On lui donna ma chambre, moi je couchais dans le salon, mais je crus bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revint bien vite, pieds nus dans les courants d'air, pour me jouer la truite de Schubert. Ce fut un beau solfège, pizzicati coquin. Accordé mon rosé arpège, fantaisie à quatre mains. Mais à l'instant où tout s'agite, sous l'ardent aiguillon de la chair, elle fredonnait la truite de Schubert. Elle fredonnait la truite de Schubert. Je lui dis, Gabriel, enfin, comprenez mon émoi, il faut être fidèle, ce sera Schubert ou moi. C'est alors que je compris bien vite, en lisant dans ses yeux pervers, qu'elle me réclamait la suite du concert. 6 mois après l'orage, nous fûmes dans une situation telle que le mariage était la seule solution.
Mais avec un air insolite, au lieu de dire oui aux mères, elle lui a chanté que de Schubert.
C'est fou ce que nous fîmes contre cette obsession. On mit Gabriel au régime,
on lui supprime
le poisson. Mais par une soirée maudite, dans le vent, l'orage et les éclairs, oh, elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. Elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert.
À présent, je vis seul, tout seul dans ma demeure.
Gabriel est parti et n'a plus sa raison.
Dans sa chambre, au touquet, elle reste des heures.
Devant un grand bocal où frétille un poisson.
Et moi, j'ai dit à Marguerite, qui est ma vieille cuisinière, ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire.
C'était la truite de Schubert dans la version de Francis Blanche, interprétée par les frères Jacques, pour vous accueillir. Étienne Kiplen, bonjour.
Bonjour David.
Vous dites que cette parodie, pour autant que c'est une parodie, est paradoxalement un retour aux sources de la mélodie, c'est-à-dire que c'est plus fidèle à l'original qu'il n'y paraît en fait.
Oui, c'est plus fidèle à l'original, et je dirais même c'est même plus savant que l'original encore, puisque elle a une drôle d'histoire, cette truite, au fond. Hein, c'est une truite qui est évidemment écrite par Schubert en 1817. C'est l'un de ses premiers leaders, d'ailleurs, mais c'est un ce qu'on appelle un Volkslied, c'est-à-dire un lied d'inspiration populaire qui est très simple, assez sommaire, finalement, assez chansonnesque. Et puis ensuite, il en fait un quatuor, un quintet à cordes, un mouvement d'un quintet, qui est une manière de le passer aussi dans un autre registre de langage, en tout cas un langage musical un peu différent. Et lorsque Francis Blanche le reprend avec donc cet ensemble, eh bien, on a l'impression que tout à coup, la musique redevient presque un peu plus complexe que le Volkslied d'origine, puisqu'il y a une polyphonie, c'est un peu plus travaillé. Donc c'est assez paradoxal ce passage entre le savant et le populaire, et peut-être que le plus populaire des deux n'est pas celui qu'on croit.
C'est donc dans les hybridations qu'il peut y avoir de l'élaboration, ce qui suffit à un peu balayer les motifs pour lesquels la chanson et la musique contemporaine peuvent se repousser, qui sont souvent des motifs de l'ordre du stéréotype. C'est-à-dire que d'un côté, on va dire que la chanson est à la fois trop accessible ou trop simple, voire décervelée, là où la musique contemporaine serait tellement intelligente et raffinée qu'elle est accusée d'hermétisme.
Oui, c'est exactement ça. Hein. Si on prend effectivement cette grille de lecture, eh bien, en effet, la pièce de Francis Blanche, elle est clairement plus savante de ce point de vue-là que celle de Schubert. Et pourtant, aujourd'hui, Schubert, bon, c'est un compositeur très célébré dans ce qu'on appelle la musique classique, hein, donc, et non pas dans la chanson.
Mais alors, le lied, qui est du coup ce genre dont Schubert est une espèce de parangon, d'étalon, c'est un genre savant, mais qui est tellement imprégné de chansons qu'il n'est pas si savant que ça.
Absolument, surtout certains des premiers leaders de Schubert sont ce qu'on appelle des Volkslieds, c'est-à-dire qu'ils sont imprégnés de chansons populaires de l'époque de Schubert, viennoises, autrichiennes au sens large, et ces chansons populaires, eh bien, elles ont nourri la musique de Schubert, mais comme elles ont pu aussi nourrir la musique de Monteverdi autrefois, comme elles ont pu nourrir aussi la musique de Chopin à peu près quelques temps après Schubert. Donc vous voyez, c'est quelque chose évidemment qu'on retrouve à bien des époques.
Mais alors, quand on cherche là où la musique savante ne veut pas se laisser assimiler à la chanson, enfin, dit ses particularités par rapport à elle, que ce soit à charge ou pas, en définitive, indépendamment des questions de valeur, ça va être sur des notions de sublime ou de tragique, dites-vous. C'est à cet endroit-là que la musique savante ne se laisse pas assimiler à de la chanson.
Oui, alors ça, c'est surtout Adorno, hein, qui nous dit qu'effectivement la musique savante ne doit pas oublier le tragique qui est son essence, sous peine de disparaître définitivement. Et finalement, c'est une idée qui est implicite, qui est entretenue de façon plus ou moins implicite dans la musique contemporaine, probablement depuis au moins un siècle, alors peut-être pas par tous les compositeurs contemporains, mais enfin, elle quand même, je trouve qu'elle traverse assez bien le temps, et Jean Molineau, par exemple, qui pourtant n'est pas très adorniste, si on peut dire, hein, mais nous dit encore que la musique savante est une affaire effectivement de sublimation, d'effort, de dépassement de soi. Donc il y a cette idée-là, effectivement, de dépasser quelque chose qui serait un peu plus primaire, un peu plus corporel aussi, pour atteindre une idée, une image plus abstraite et plus sublime, précisément.
Mais alors, cette idée, elle vient d'où et, enfin, surtout de quand ? Parce qu'on pourrait dire que cette séparation entre le chant du savant et la musique de l'ordre du populaire, c'est-à-dire aussi la chanson, ce serait au XVIIe siècle, au moment, en même temps, où on sépare l'opéra bouffa et l'opéra seria, c'est-à-dire qu'il y aurait dans la séparation des deux quelque chose de l'ordre du sérieux et du comique ?
Alors tout le monde, je crois, a voulu voir à telle ou telle époque la date de séparation du savant et du populaire. C'est assez difficile au fond d'en donner une chronologie précise. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que au XVIe siècle, lorsque la polyphonie se transforme en monodie accompagnée, lorsque l'opéra devient un genre à part entière éminemment savant, il se produirait une sorte de première grande fracture ici. Mais on pourrait aussi imaginer, comme vous le dites, que le passage du genre bouffa au seria, et surtout du seria au bouffa, c'est aussi un moment important de séparation entre le savant et le populaire. Adorno, quant à lui, rappelle que pour lui, de façon très précise, c'est La Flûte enchantée qui serait le dernier ouvrage musical où se mêleraient sans problème esthétique et politique, si on peut dire, le savant et le populaire. Mais bon, là encore, si on écoute Chopin, il n'y a rien de particulièrement particulièrement savant chez Chopin, dénué de toute trace populaire. Et c'est ainsi également chez Liszt et chez d'autres. Donc voilà, on trouve toujours, et même si on voulait regarder d'ailleurs même Schoenberg, de temps en temps, il lui est arrivé aussi d'arranger des chansons populaires. Bon, c'était peut-être un travail alimentaire.
Vous dites qu'il avait même le fantasme qu'on chante sa musique, qu'on la sifflote en sortant du concert, qu'on en retienne une empreinte mélodique.
Oui, c'est ce qu'il aurait déclaré aux États-Unis, effectivement. Il y a plusieurs déclarations américaines de Schoenberg qui sont très troublantes parce qu'il revient beaucoup sur ce qu'il a pu faire en Allemagne et en Autriche, où il semble vouloir devenir un compositeur à la mode américaine, c'est-à-dire avec une grosse voiture, célèbre pour Hollywood. Ça, d'ailleurs, il habite en Californie. Il est dans cet univers-là. Il va aller jouer au tennis avec Chaplin. Il fréquente les Marx Brothers, enfin des stars, voilà, des vedettes. Et puis, pour autant, il dénigre toujours son adversaire Stravinsky qui habite à 10 km de chez lui. Donc, vous voyez, il est beaucoup plus finalement intégré dans un univers de star system que dans un univers de musique savante, austère et un peu sélective, comme ça a pu être le cas dans les années 10 et 20 en Allemagne.
Il reste que là où la musique du XXe siècle peut parfois vouloir s'affranchir clairement de la chanson, c'est sur la question mélodique précisément, c'est-à-dire on se pose même la question à savoir si la musique a rejeté la chanson avant de se méfier de la mélodie ou a commencé par se méfier de la mélodie avant de prendre ses distances avec la chanson. C'est vraiment la mélodie qui pose problème ?
Oui, probablement, c'est quand même une partie, la mélodie. Varèse, d'ailleurs, ne s'était pas trompé. Il avait donné un petit peu comme adversaire de la musique contemporaine le mouvement mélodique qui, pour lui, ramenait toujours à quelque chose de primaire, d'ancien, d'archaïque, et qu'il fallait absolument dépasser. Il avait vraiment ciblé la mélodie en particulier. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, bien sûr. Schoenberg avait un discours mélodique très très établi. Même Webern aussi, quelque part. Pourtant, ses musiques ne paraissent pas s'inscrire dans une forme de continuité mélodique, en particulier avec ce qui pouvait exister auparavant. Néanmoins, c'est vrai que la limite a été probablement franchie dès lors que l'on a commencé à éclater les mélodies d'un point de vue spatial, c'est-à-dire à proposer des grands intervalles mélodiques et non plus des petits intervalles qui pouvaient être encore chantonnés. Même chez Brahms, on peut chantonner plein de mélodies, ce qui n'est plus tellement le cas chez Schoenberg et probablement plus chez Webern. D'un point de vue donc spatial, je viens de dire, mais aussi temporel, à partir du moment où on introduit du silence, on morcelle les phrases, effectivement, ça donne une discontinuité supplémentaire à la mélodie qui la rend évidemment beaucoup moins facile à entendre, à retenir, à suivre, à mémoriser.
On peut tellement bien chantonner Brahms que ça a été l'une des sources d'inspiration de Gainsbourg.
Pontiac, de Cadillac, de Bentley, RLA, de Rolls Royce et de Buick dans la nuit métallique. Babylon in Babylon, noyé sous les flots de musique électrique. Rock and roll, Jewish.
Jane Birkin dans un extrait de Babylon de Serge Gainsbourg. Je dis de Serge Gainsbourg, mais il faudrait quand même aussi dire de Johannes Brahms, puisque on y entend très amplement la troisième symphonie. C'est peut-être pas un hasard si les points de rencontre entre la chanson et ce qu'on appelle parfois la grande musique sont souvent sur des berceuses, Étienne Kiplen.
Oui, c'est vrai, on retrouve plusieurs points de rencontre autour de berceuses. Peut-être c'est ce qu'il y a de plus originel aussi. C'est peut-être la première musique qu'entend le nouveau-né lorsque sa maman lui chante une berceuse pour s'endormir, ou ce qu'il peut entendre aussi sur ses fameux petits tourniquets lorsqu'il est bébé et qu'il met en musique. Bon, alors Brahms, évidemment, la fameuse berceuse de Brahms, ça fait le bonheur de générations de nouveau-nés entières, hein, avec ses tourniquets dans les années 80 qui diffusaient en boucle avec un son relativement douteux la fameuse berceuse de Brahms. Mais c'est vrai qu'il y a probablement quelque chose d'originel auquel on est attaché d'une façon plus ou moins consciente.
Il y a un théoricien, on peut dire, de la chanson, Bruno Joubrel, qui cherche à donner tant ses lettres de noblesse à la chanson qu'il recherche des critères formels, et il relève, alors on en parlait tout à l'heure, la mélodie, au point que quand Gainsbourg parle, par exemple dans Love on the Beat, il considère que c'est à peine de la chanson parce que c'est pas chanté.
Oui, c'est vrai que les critères de chanson, de mélodie peuvent être assez déterminants. Et pendant longtemps, d'ailleurs, beaucoup de chansons ont été définies par le fait qu'on devait chanter. Dès lors que c'est du parler, c'est plus tout à fait de la chanson pour certains théoriciens. Et ça, c'est toujours difficile à appréhender parce qu'aujourd'hui, avec le slam, avec le rap, on est bien sûr sur d'autres formes de chansons, mais qui pour autant n'ont pas vraiment quitté le genre. Elles l'ont fait évoluer, elles ont ouvert d'autres voies. Mais on est certainement toujours dans le contexte d'une chanson.
On disait avec la berceuse que ça nous fait revenir à ce qui serait quelque chose d'un peu premier, on va pas forcément dire primal, mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre du retour à au moins quelque chose d'ancestral. Vous citez le psychanalyste Philippe Grimbert qui dit « Reprendre un refrain qui nous a séduit serait parcourir à rebours le long chemin qui nous a fait homme, retrouver nos premiers attachements ». Il y a quelque chose carrément de la vibration anthropologique.
Oui, je crois aussi que c'est déterminant. On sait très bien, par exemple, que les personnes qui souffrent d'Alzheimer, lorsqu'elles rechantent ou des chansons qu'elles ont connues quand elles sont enfants, elles s'en souviennent, elles s'en ressouviennent. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que la mémoire musicale, et notamment la première mémoire musicale, est extrêmement forte. On se souvient très très facilement de chansons qu'on a pu connaître 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans auparavant, dès lors qu'on les a beaucoup entendues, parce que que c'est resté, et c'est quelque chose qui reste peut-être au-delà même des situations, des paroles, de beaucoup de choses. Donc la mémoire de la musique chantée est vraiment très forte, très prégnante.
Alors si c'est comme ça ou par cet endroit que la musique vient toucher des zones existentielles quasi limites, vous citez aussi le poète Velimir Khlebnikov qui disait « Quand les gens meurent, ils chantent des chansons ».
Et oui, effectivement. D'ailleurs, ça a inspiré une œuvre à Henryk Kurecki, compositeur polonais, qui a repris ce morceau de poème pour en faire un quatuor à cordes. Parce que pour lui, c'est quelque chose qui apparemment tient de l'ordre de l'essentiel, au niveau humain en tout cas.
C'est une partition qui s'appelle Songs Are Sung, donc il y a bien cette idée d'un héritage musical, mais qui vient du passé.
Ah oui, chez Goretzky, en tout cas, le passé, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est un vrai nostalgique. Il y a d'innombrables citations ou stylisations d'œuvres issues du 15e, du 16e siècle. Alors beaucoup d'hymnes religieux, à vrai dire, parce que Goretzky était quelqu'un de particulièrement dévot. On a même une photo de son cabinet de travail où il est environné de crucifix et d'images pieuses. C'est vraiment assez, assez frappant. Et Goretzky, probablement aussi, avait vraiment une conception très particulière du rapport à la voix. Sa troisième symphonie, qui est devenue presque un tube dans les années 90, comporte également une voix, hein, c'est une symphonie avec voix et orchestre, donc ça c'est vraiment intéressant aussi, parce que c'est pas si fréquent, bien sûr Mahler l'a déjà fait, mais c'est quand même assez rare d'associer une voix avec un orchestre, et donc ce rôle-là de la voix est vraiment particulier, et même dans le quatuor à cordes, dans ce quatuor à cordes, mais dans d'autres quatuors également, sur son premier quatuor, par exemple 1988, est très marquant aussi, il y a des bribes de chansons, il y a des éléments provenant de chansons et qui sont souvent travaillés avec des sons un peu saturés où on se croirait presque dans les guitares électriques des musiques actuelles, des musiques américaines. Donc quelque chose qui ramène à la pop vraiment de façon assez, assez originale.
Oui, mais alors voilà, c'est-à-dire que s'il traverse les frontières des genres, c'est parce qu'il y a quand même un retour aux sources préalables. Quand vous dites que le passé est important pour lui, on croit presque entendre quelque chose d'un peu désespéré à laisser penser que l'avenir pourrait jamais être aussi important que tout ce dont on peut hériter.
Je crois que c'est une opinion assez partagée en Europe de l'Est, à vrai dire. Quand on regarde beaucoup de compositeurs en Europe de l'Est, les Polonais, mais aussi bien sûr les Baltes, les Russes, ils ont souvent cette espèce de nostalgie, Gubaidulina également, Arvo Pärt bien sûr, Schnittke aussi, hein. Il y a souvent ce rôle du passé, c'est un passé dont ils ont du mal à se détacher, qui est toujours présent comme une sorte de mélancolie, assez profonde parfois, des œuvres souvent soit ironiques mais souvent aussi teintées d'une certaine noirceur chez Schnittke en particulier. C'est vrai que c'est un passé dont ils n'ont pas envie de se détacher manifestement parce que pour eux l'avenir et la modernité est source de nombreuses angoisses.
Étienne Kiplen, est-ce que ça veut dire, quand on fait ce type de croisement d'époque, qu'on est nécessairement post-moderne ?
Ah ça, la postmodernité, c'est un sujet assez complexe parce qu'au fond, beaucoup de penseurs y ont réfléchi et finalement, on n'est pas toujours d'accord. Il y a deux choses, à mon avis, qui se distinguent. C'est d'un côté la postmodernité, qui serait peut-être une époque ou qui serait peut-être quelque chose de beaucoup plus large que simplement un courant artistique, et de l'autre côté, le postmodernisme qui a des implications plus précises d'un point de vue musical. Alors, la postmodernité, on sait que Lyotard en France a été l'un des premiers à l'évoquer. Ça pourrait même peut-être dessiner une partie de ce qui se passe dans les années 70-80 autour d'un besoin de dépassement de la modernité, d'un essoufflement également de la croyance dans le progrès immuable et toujours pérenne. Et puis le postmodernisme, eh bien, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus précis d'un point de vue esthétique. Et là, d'un point de vue aussi nostalgique, avec beaucoup de retours, de citations, d'emprunts, de reprises, et notamment de mélange des genres. Dans le postmodernisme musical, d'une certaine manière, rien n'est frappé d'illégitimité. Tout se vaut, à la fois la musique populaire, la musique ancienne, la musique contemporaine également, la musique la plus avancée est tout à fait défendable. Et le mélange de tout cela, justement, c'est quelque chose qui n'est effectivement pas étranger à cette conception du postmoderne, oui.
Alors on dirait que c'est, oui, quand on a besoin de consolation que l'on va chercher dans des procédés anciens. Vous faites un rapprochement dans ce livre Chansons françaises et musique contemporaine entre une page bien connue de l'histoire de l'opéra, une page de Monteverdi, et un extrait du deuxième mouvement du concerto pour violon de Ligeti. On va écouter à suivre l'un et l'autre de ces extraits. C'est Monteverdi qui invente l'idée qu'une plainte, c'est toujours une suite de degrés de la gamme qui descendent et descendent et descendent.
L'histoire de la musique a tendance effectivement à mentionner Monteverdi comme le grand inventeur du lamento, en tout cas ce genre effectivement de plainte, de lamentation, qui utilise volontairement un tempo lent, un mouvement descendant, généralement avec des tout petits intervalles. Bon, cependant, Monteverdi, vraisemblablement, ne l'a inventé que dans la manière qu'il a eu de le synthétiser. Mais on le trouve déjà dans les musiques populaires, méditerranéennes en particulier. C'est quelque chose qu'on trouve en Italie, qu'on trouve en Sardaigne, encore aujourd'hui, qu'on trouve en Corse. Ça s'appelle le vocero en Corse. Ce sont des lamentations, sont des plaintes funèbres des femmes, notamment face à la dépouille d'un défunt de la famille. On le trouve aussi en Roumanie. Ça s'appelle alors le bocet. On voit d'ailleurs la proximité. Vocero, bocet. On voit bien que c'est évidemment la même étymologie. Donc tout cela se trouve un petit peu partout autour de la Méditerranée et probablement aussi dans d'autres cultures. Et ce qui est intéressant précisément, c'est que Monteverdi en a fait vraiment un archétype de l'ère d'opéra, de lamentation et du madrigal aussi, mais de l'ère d'opéra surtout, ce qui fait qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, on trouve des lamentos dans pratiquement tous les opéras italiens et même au-delà de l'Italie. Par exemple, prenons le fameux Didon aîné de Purcell, qui est un magnifique opéra pourtant très court. Il y a trois lamentos, ne serait-ce que trois lamentos dans cet opéra qui fait à peine 50 minutes.
Et puis dans la musique française, on en trouve, on peut dire à tous les siècles, puisqu'on en trouve en plein milieu du XVIIIe siècle avec Rameau, jusqu'à la toute fin du XXe siècle dans les quatre chants pour franchir le seuil de Gérard Griset.
Oui, alors avec quand même des moments un petit peu plus discontinus. Hein. Le lamento, effectivement, c'est un genre très connoté musique baroque. Il est peut-être un peu plus rare au XIXe siècle, où la musique a d'autres idées, d'autres démarches. Mais effectivement, on peut le retrouver parfois à la fin du siècle, chez Gérard Griset en particulier, et ça c'est très vrai. Il y a l'esprit du lamento qui plane sur cette toute dernière œuvre d'ailleurs, qui est une œuvre quasiment prophétique.
Vous en avez même repéré chez Léo Ferré, mais alors là avec tout un jeu de références, puisque c'est un lamento qui passe par Beethoven, mais pour en fait venir à charge contre Webern, mais en fait peut-être pas tant Webern que Boulez.
Alors ce qui est vraiment intéressant, je crois, c'est que le lamento traverse complètement la barrière des genres et des styles. On le trouve dans la musique populaire très très ancienne. On le trouve dans la musique savante, j'ai parlé de Monteverdi, vous avez rappelé aussi que plusieurs exemples existent dans la musique française. On peut penser à Ligeti aussi, qui a fait un usage extrêmement abondant du lamento à peu près à toutes les époques de création possible. Et puis, dans la chanson, on le trouve chez Barbara, je crois, c'est assez clair, dans Vienne par exemple, mais aussi chez Léo Ferré, comme vous l'avez dit. Et Léo Ferré, alors c'est intéressant parce que c'est un compositeur et un chanteur et un auteur dont l'attitude vis-à-vis de la modernité de la musique savante était particulièrement obtus, il faut le dire quand même, et plutôt intolérante, parce qu'il écrit quand même un pamphlet en 1961 qui s'appelle « Lettre à un jeune musicien » où il dit, je cite, « Entendez-vous le silence contemporain, ce simple son isolé qui n'est même pas celui d'un corbeau enrhumé ?» Bon, et ensuite, il évoque bien sûr Boulez et se moque du nom de Stockhausen, ce qui est forcément pas très élégant. Donc, on trouve quelque chose comme une sorte de refus absolu de la musique contemporaine chez Ferré. Et à travers cela, évidemment, il se réfugie chez Beethoven, qui est un modèle absolu pour lui. Mais aussi, il se réfugie dans le lamento. Hein, ça, c'est assez vrai. Il se réfugie parfois dans ce lamento qui est le témoin peut-être d'une époque bénie, d'une époque à laquelle il pense sans cesse.
La musique, où était la musique? Dans les salons lustrés aux lustres vénérés, dans les concerts secrets aux secrets crinolines, dans les temps reculés aux recules empaffées, dans les palais conquis aux conquêtes calines. C'est là qu'elle se pâme, la musique. C'est là qu'elle se perd, la musique. Nous, c'est dans la rue qu'on la veut, la musique. Et elle y viendra. Et nous l'aurons, la musique. Mousse, essaye, esmoussaille. C'est là dont il est très. Cela est. Depuis voilà bientôt 30 ans. Depuis voilà bientôt 10 jours. Depuis voilà bientôt ta gorge. Depuis voilà bientôt ta source. Depuis que je traîne ma course au creux des nuits, comme un forçat à patibuler mon écorce. Nous c'est ça. Est-ce que ça? Cela doit il être. Cela est. Je suis un arbre non daté. Depuis que je vois à ma porte, que de l'enfer tu m'apportes. De quoi trancher sur l'avenir.
La musique depuis classique est au-delà. C'est métaclassique. Avec David Christoffel.
Parler de manière emphatique sur du Beethoven, c'est aussi arrivé à Lionel Hallyday avec le poème sur la septième.
Vraiment, c'est vrai. Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons. C'est vrai. Ça a vraiment existé.
C'est la preuve que invoquer Beethoven à la fin du XXe siècle sur de grandes scènes n'est pas la preuve qu'on est de gauche.
Ah oui, ça c'est certain. Je dirais même que, en fait, il y a un décrochage entre l'avant-garde politique et l'avant-garde esthétique. Et ça, on le voit très bien chez Léo Ferré, puisque lui se réclame évidemment d'une gauche un peu anarchiste, un peu révolutionnaire, certainement. Et pourtant, il est assez conservateur d'un point de vue musical, il faut le dire. Assez conservateur et même relativement intolérant. Par rapport à la musique de Boulez, qu'il qualifie de bourgeoise, qu'il ne comprend guère aussi, d'ailleurs, il faut dire. Bon. Et cette déconnexion de l'avant-garde politique et de l'avant-garde musicale, elle est assez forte, en fait, pratiquement chez tous les compositeurs et chanteurs engagés des années 60 et 70, qui sont extrêmement fidèles au système tonal, qui sont extrêmement fidèles aux enchaînements d'accords qui ont été établis il y a peut-être deux siècles ou deux siècles et demi, mais qui, pour autant, sont en rupture avec le modèle politique. Donc, cette espèce de hiatus, de discrépance, finalement, entre, d'un côté, le politique et l'artistique, je crois, ne se résout qu'à travers un cas particulier, une chanteuse et autrice particulière, c'est Colette Mani. Et chez Colette Mani, il y a, de façon absolument incroyable, l'association d'une avant-garde esthétique fondamentale et d'une avant-garde politique, d'un révolutionnaire absolument abouti.
Alors, on va écouter un extrait de Colette Mani, après quoi nous écouterons une question d'Omer Corlet à son sujet.
Alors, on garde son sang-froid ? Aïe ! Pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. C'est qu'un passant, mais maintenant pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue, elle est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers. Si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse, pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre? C'est pas un homme convenable à refuser le prix Nobel. Respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qui vous suratonne, cher Renaud? Chacun son poste. Nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie.
Colette Mani, qui effectivement ne va pas dans les évidences harmoniques de la chanson, on en reparle dans un moment. Tout d'abord, une question d'Omer Corlet pour vous, Étienne Kiplen.
Étienne Kiplen, chanson française et musique contemporaine. Alors, bien sûr, quand j'ai regardé le titre, mais quand même, j'ai eu l'impression à la lecture que c'était plutôt une réflexion autour de l'opposition entre postmodernisme, la formule de Charles Jenks, l'hybridité des genres avec la notion de vernaculaire qui s'introduit, c'est-à-dire du haut, du bas, dans le haut, dans le genre architectural qui serait haut, architectonique, on introduit des petits objets ou des signes un peu étranges, on dirait, je sais pas quoi, un Donald, par exemple, sur un bâtiment, bon, qui crée quelque chose d'étrange, d'hybride. Et puis la notion de postmodernité, telle que Jean-François Lyotard la développe, c'est plutôt une notion de surmodernité qu'il donne. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était le chapitre chanson entre connivence et convergence, où là, on a, évidemment, je vois bien la notion de postmodernité, de postmodernisme qui apparaît, mais étrangement, moi, m'a intéressé pour une autre problématique, c'est que brutalement, j'ai découvert des chanteurs qui m'intéressaient beaucoup, que je ne connaissais absolument pas. Par exemple, l'autrice, compositrice, interprétesse, pourquoi pas, hein, Colette Mani, passionnée, parce qu'on est vraiment là devant une traubériste, si on veut prendre ça d'un point de vue de l'histoire de notre musique. Elle est vraiment entre deux mondes, dans son expression, dans son geste musical. Et j'ai eu une conversation avec un de mes amis, et je ne sais pas pourquoi, dans la conversation, à un moment donné, cet ami me dit... Mais tu sais qu'elle a travaillé avec Joël Léandre. Ah, je dis, bah oui, mais justement, quand je l'écoutais, dans sa voix, dans son expression, j'ai eu l'impression d'entendre Joël Léandre. Donc je me suis dit, voilà, une porosité entre deux mondes, entre des mondes, entre le monde de la musique contemporaine. Mais là, du côté de l'improvisation, qui est déjà un hors-monde de la musique contemporaine, et la chanson qui serait un hors-monde, qui fait que quand je dis trobériste, eh bien, peut-être, c'est peut-être la définition qu'on pourrait donner des musiciennes compositrices qui apparaissent à un moment donné dans l'histoire de la musique. Et là, brutalement, ma question est venue en me disant, mais bon Dieu, mais effectivement, les compositrices, ou ce que j'appelle ces autrices, compositrices, interprétesses, eh ben, sont devenues, ont trouvé leur mode d'expression. Est-ce que c'est ce mode d'expression peut-être d'aller vers la musique contemporaine ou d'aller vers le grand genre, il n'y avait pas d'autre solution que de partir d'un genre qui semblait moins important. Et donc à ce moment-là, on comprend peut-être mieux la question du postmodernisme ou de la postmodernité. Là, on a l'impression que ce mouvement est peut-être dans les deux sens, et c'est peut-être un mouvement d'émancipation paradoxalement pour aller vers le grand genre, vers le statut de compositrice tel que l'on le perçoit maintenant dans les années 80 ou 2000. 2000, je dirais plus de 80, c'était encore cet interstice. Et là, peut-être que c'est cela qu'il y a eu comme grande transformation sur le musical. Et peut-être que quand vous parlez du ludisme, peut-être que le ludisme se rattacherait aux hommes qui auraient un complexe et qui ne sauraient pas comment trop l'exprimer.
Alors, est-ce qu'il y aurait, Étienne Kiplen, quelque chose d'un enjeu de genre sexuel dans le côté aventureux, dans le rapport au genre de Colette Magny, dans le rapport au genre musical ?
Bon, je serais quand même très prudent sur cette question, parce que je crois que Colette Magny est une personnalité vraiment très à part. Je ne suis pas certain qu'il soit possible de la rapprocher d'autres personnalités féminines, par ailleurs très nombreuses dans la chanson, il faut le dire quand même, y compris dans la chanson engagée, on peut penser aussi à Brigitte Fontaine. Mais est-ce que vraiment l'idée de Colette Magny d'associer une musique qui en fait imprégnait de musique contemporaine, parce que Omer Corlet parle à juste titre de Joël Léandre, mais elle a travaillé également avec Michel Puig, qui était un étudiant de Leibowitz, comme Boulez, à la même époque d'ailleurs. Et elle a travaillé également avec Diego Masson, qui passait une partie de son temps à diriger des orchestres et à créer des œuvres de Xenakis et de Stockhausen, puis une autre partie à diriger les enregistrements de Colette Magny. Donc elle a travaillé avec ces personnalités venues de l'avant-garde musicale, ou bien du free jazz également, comme Bar Phillips ou François Tusk au piano. Bon, donc cet assemblage comme ça, ce chaudron dans lequel se coule l'ensemble de ces influences, et je crois très particulier, très spécifique. Je ne le rattacherai pas à un genre en particulier. Il y a certainement, évidemment, une velléité féministe chez Colette Magny, mais je ne sais pas si c'est vraiment typiquement féminin, si c'est ainsi que Omer Corlet voulait poser la question. Je ne sais pas.
Et si c'est à cet endroit que ça se joue, en tout cas.
Oui, c'est pas forcément sur la question du genre que ça se joue. Ça se joue beaucoup, en revanche, sur l'idée, à un moment donné, de se dire pourquoi est-ce que je vais composer une musique dont les déterminants, dont les règles sont déterminées depuis 2 ou 3 siècles, alors que mon message politique, lui, se veut tout à fait nouveau et renouvelé. C'est ça la question principale, je pense, qui anime Magny. Et elle se dit, mais je ne vais pas mélanger un message révolutionnaire avec une musique qui ne l'est pas. Et à partir de là, eh bien, elle va créer sa propre musique, qui est un mélange extrêmement raffiné, extrêmement captivant, je dirais même, de musique contemporaine, de free jazz, et aussi de chansons, parce que ça reste la chanson.
Alors, ça laisse quand même penser que on ne fait pas la révolution avec seulement 3 ou 4 accords, puisque vous montrez que effectivement les chansons se reposent sur des grilles dont le nombre est assez peu varié. Vous en listez 6, et puis dans chacune de ces grilles, vous nous montrez comment on peut traverser le répertoire quasi de fond en comble. On peut prendre par exemple la grille B, qui a été consacrée par I Got a Rhythm de Gershwin. Qui est la même grille que l'on peut retrouver dans la petite cantate de Barbara.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite monte vers
toi. Qui est la même grille qu'on peut retrouver dans Douce France de Charles Trenet.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Et donc toujours cette même grille qui fait se succéder le premier degré de la gamme, puis le sixième, le deuxième et le cinquième, qu'on retrouve aussi dans Marzia Baila d'Erita Mitsuko. Ce qui est paradoxal, Étienne Tiplaine, et que vous relevez très bien, c'est que, en revanche, quand on est un grand compositeur de musique savante, on a besoin de cette pauvreté harmonique pour se repolitiser. Vous citez Nono et Berlioz, par exemple.
Alors, Nono, c'est un cas très particulier, là encore, puisque c'est un compositeur lié à Schoenberg, il avait épousé notamment sa fille, mais il est lié aussi à une vision tout à fait communiste. Il a été longtemps membre du Parti communiste italien, il a même été candidat malheureux à la députation, et puis il a fait un voyage en Union soviétique également, où là, il n'a pas forcément tellement apprécié la musique qui pouvait y être défendue, en tout cas la musique savante qui pouvait y être défendue. Effectivement, Nono a essayé lui aussi d'associer la musique contemporaine et un message politique révolutionnaire. C'est assez proche de ce que fait Mani dans son genre, au fond. Je crois que les deux ont eu l'idée d'une forme de cohérence stylistique et politique. C'est un peu différent, évidemment, chacun dans son domaine, chacun dans son couloir, mais les deux participent un peu, je crois, de la même démarche.
Quant à Berlioz, il ne conçoit pas, en quelque sorte, de dépouiller son langage sans passer par la citation de chansons potentiellement très anciennes et reconnaissables par tout le monde.
Oui, Berlioz, c'est différent, c'est quelqu'un qui louvoie de façon assez nette avec ce fameux postmodernisme musical qui serait peut-être pas la postmodernité de Lyotard, mais plutôt le postmodernisme de la citation. On connaît bien sûr sa fameuse Symphonia, dont un mouvement est composé d'une multitude de citations de Mahler, de Beethoven, mais aussi...
Oui, dont vous nous aviez parlé dans une précédente émission de Métaclassique, justement, sur la citation.
Voilà, exactement. Mais il y a des bonnes références que j'aime rappeler souvent. Mais Berlioz, c'est aussi celui qui compose les folk songs, d'ailleurs pratiquement à la même époque, juste 4 ans avant. Et c'est une pièce qui est un ensemble en fait de chansons populaires, de chansons venues de la tradition orale autour du monde, et qu'il va arranger avec une manière d'arranger qui est souvent très contemporaine, des glissando, des quarts de ton, des sonorités un peu étranges, des modes de jeu bizarres. Et puis on retrouve ça aussi dans une pièce très très peu connue qui s'appelle Allez Hop. C'est une sorte d'action scénique en 1952, Allez Hop, c'est une pièce très étonnante parce qu'elle est très contemporaine, son esthétique fait place à une certaine dissonance, à une musique atonale, souvent aussi sonoriste, et au milieu, eh bien, il y a des chansons. Et des chansons, il y en a même deux, qui sont écrites tout à fait dans le style jazzy des années 30, des chansons dont on se demande vraiment ce qu'elles ont comme lien avec le reste, et ça c'est tout à fait saisissant, ce goût comme ça, presque un peu inavoué, presque comme une sorte de péché de chair que Berlioz aurait de citer des chansons, d'écrire des chansons, de s'amuser autour de la chanson. Il va le faire de façon très très régulière tout au long de sa carrière, dès les années 40 déjà, on entend des premières chansons. Dans les années 50, 60, 70 encore, il y aura des œuvres à base de chansons.
L'autostrada è lunga uniforme, la pianura è monotona e piatta, greve il cielo minaccia la pioggia e le rondini volano basse. Più si corre, più sa l'impressione d'esser fermi su un nastro d'asfalto, solo fuggono le righe bianche e una nuvola vola là in alto. Sono ore, sonare. parlo non mi rispondi più nulla, sono ore e ore, sono anni e anni e anni che siedo accanto a te, uomo del camion. Ora è buio, non so dove siamo. Guardi più me, scruti avanti, dove l'ombra è trafitta soltanto dal vai vieni dei fari abbaglianti. Mi dicevi in città tu vedessi le vetrine, le luci, via vai. Ora taci e non so dove siamo, l'autostrada non termina mai.
Pour terminer cette émission, Étienne Kiplen, parlons d'un compositeur contemporain dont le mot compositeur n'est peut-être pas tout à fait exact, parce qu'il justement il recouvre pas sa capacité à sortir des frontières, puisque là on a eu des chanteurs qui avec Colette Magny allaient vers des expérimentations, on a eu des compositeurs qui allaient vers la chanson, mais c'était encore chacun chez soi. Dans le cas de Samuel Andreïev, lui va de part et d'autre de la frontière entre musique savante et chanson.
Oui, ça c'est très intéressant et c'est ce que j'ai nommé d'ailleurs la schizesthétique. C'est un mot qui en fait doit comprendre l'idée qu'un compositeur à un moment donné écrit de la musique contemporaine, c'est sa formation, mais il aime aussi la musique pop, la chanson, et donc il va en écrire également. Et il écrit les deux, mais souvent dans deux couloirs, dans deux registres, dans deux mondes esthétiques relativement étanches, parce que dans la musique contemporaine, il n'est pas forcément toujours très bien vu d'écrire de la pop, et dans la musique pop, on ne comprend pas très bien non plus pourquoi on écrirait de la musique contemporaine. Donc cette espèce de difficulté à faire mélanger les deux, eh bien ça donne cette espèce de double carrière artistique qu'on retrouve chez certains compositeurs comme Christian Lauba, qui a d'ailleurs pris un pseudo dans les années 80.
Oui, mais lui, il sépare ses noms, Christian Lauba.
Oui, Christian Lauba, alors maintenant il ne le sépare plus. Maintenant il se reconnaît tout à fait dans son pseudo Jean Matitia, qui est Christian Lauba. Mais à une époque, effectivement, il faisait ses ragtime et ses pièces un peu étonnantes en cachette, pratiquement. Hein, et bon, alors il y en a d'autres, mais je soulève plusieurs compositeurs, plusieurs interprètes aussi qui pratiquent un peu les deux. Certains sans cachette. D'autres, ce n'est pas en cachette. Hein. Samuel Andreïev a publié des CD de pop et des CD de musique contemporaine. Et je crois que les deux sont vraiment très intéressants, hein, parce que on voit le même goût pour la sonorité, pour le timbre. On voit aussi le même goût pour une recherche esthétique qui est différente, qui s'exprime parfois avec des accords parfaits, parfois avec une grille de lecture tout à fait atonale. Mais il y a ce goût pour la sonorité, pour le renouvellement de l'écriture instrumentale, et qui est, je crois, assez pertinente dans les deux cas.
Alors, puisque vous tendez un pont entre Christian Lauba et Samuel Andreïev, ça donne envie de poursuivre la comparaison, puisque lequel est le plus schizesthète ? Le mot est de vous, schizesthète ?
Oui, en tout cas, je pense parce effectivement que... l'avoir indiqué en premier, en tout cas sous cette acception.
Dans les ragtime de Christian Lauba, on ne trouve aucune sorte de trace de son activité de compositeur contemporain, là où Samuel Andreïev, dans ses chansons, laisse quand même entendre un jeu d'élaboration, de déformation du langage qui n'aurait peut-être pas été si net s'il n'avait son activité de compositeur, entre guillemets, savant à côté.
Peut-être, mais quand même, chez Christian Lobin, en revanche, dans sa musique contemporaine, on entend quand même le son des peuples, le son des musiques du monde, le
ah oui,
son
dans l'autre
des
sens,
chansons,
oui,
voilà. Mmh. On entend quand même quelque chose qui vient d'ailleurs dans la musique, dans pratiquement toute la musique dite contemporaine signée Christian Lobin. Donc le lien, la passerelle, se fait certainement dans ce sens-là. Alors chez Samuel Andreïev, oui, il y a une recherche de contemporanéité, hein, un peu d'étonnement ou de sublimation sonore dans sa musique pop, dans sa musique de chanson, puisqu'il chante lui-même aussi, il joue du piano, il joue plein de choses, il chante, il fait le montage, enfin, il fait un peu tout. Et puis dans sa musique contemporaine, parfois, de temps en temps, notamment dans ses vérifications, eh bien, il va citer, hein, comme un sample en fait, c'est comme un sample dans le rap, hein, il prend un sample de musique populaire, de sa propre musique populaire, qu'il va intégrer, varier, modifier, dans une musique d'esthétique contemporaine. Il a même composé ça quand il était en stage à l'IRCAM, donc c'est dire que...
C'est dire. Si on veut retraverser tous ces enjeux, on peut le lire dans votre livre aux presses universitaires de Provence, Chansons françaises et musique contemporaine. Merci beaucoup, Étienne Kiplaine.
Merci beaucoup, David Christoffel.
Radio Campus Lille.